VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonsoir à tous. Au Nigeria, des hommes armés ont tué des dizaines de personnes et enlevé un certain nombre d'enfants lors d'attaques distinctes dans deux états du nord du pays. Des habitants ont déclaré que des hommes armés avaient attaqué les villages de Janbako et de Sakida dans le nord-ouest de l'état de Zamfara samedi, tuant 24 personnes. Les hommes armés ont également enlevé plusieurs enfants qui ramassaient du bois dans une forêt du village voisin de Gora. Le porte-parole de la police de Zamfara, Yazid Abouakar, a confirmé les attaques, mais a déclaré que seules 13 personnes avaient été tuées et 9 jeunes garçons et filles enlevés. Dans l'état de Benue, au centre-nord, des hommes armés ont tué 25 personnes et incendié leur maison lors d'une attaque samedi contre la communauté d'Imandé Mbakangé, selon deux habitants. En Algérie, le parquet a requis ce dimanche devant la cour d'appel la confirmation de la condamnation du patron de presse Izan El Kadi à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Monsieur El Kadi, 63 ans, dirigeant d'un des derniers groupes de presse privés d'Algérie, qui comprend Radio M et le site d'information Maghreb Émergent, est poursuivi pour financement étranger de son entreprise. Il est emprisonné depuis le 29 décembre. Son arrestation a suscité une vague de solidarité parmi ses collègues et les militants des droits humains en Algérie et en Europe. Plusieurs centaines de militants de gauche syndicale marocaine, de la gauche syndicale marocaine, ont dénoncé aujourd'hui à Casablanca, dans l'ouest du Maroc, la cherté de la vie et l'inaction du gouvernement malgré l'interdiction de manifester venus des quatre coins du pays. Les syndicalistes de la Confédération démocratique du travail se sont rassemblés dans le centre historique de la capitale économique. Le rassemblement s'est déroulé sans incident majeur, seulement émaillé de quelques bousculades avec les forces de l'ordre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié dimanche d'attentat terroriste le meurtre de 3 soldats par un membre des services de sécurité égyptiens et a exigé une enquête complète mené conjointement avec le Caire. L'Égypte a accepté de collaborer avec Tel Aviv pour enquêter sur l'incident.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'opposition syrienne a appelé aujourd'hui à la reprise des pourparlers avec le régime de Bachar al-Assad sous l'égide de l'ONU à la suite du retour de Damas dans le giron arabe après des années d'isolement. Les contextes internationaux, régionaux et la situation en Syrie sont propices à la reprise de négociations directes dans le cadre d'un programme et d'un calendrier précis, a estimé dans un communiqué le Haut Comité des négociations qui regroupe les principaux représentants de l'opposition au régime syrien. Dans un discours devant le Conseil de sécurité à la fin du mois de mai, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a estimé de son côté que la nouvelle activité diplomatique dans la région depuis avril pourrait représenter une opportunité si elle est saisie. L'Arabie saoudite, poids lourd de l'OPEP, a décidé de procéder à une nouvelle réduction de sa production de pétrole, a annoncé aujourd'hui le prince saoudien Abdelaziz Ben Salman, dans l'espoir de doper les cours. Cette mesure s'applique à compter de juillet et pourra être étendue, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion à Vienne des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et de leurs 10 alliés conduits par la Russie. Les autorités indiennes ont mis fin aujourd'hui aux opérations de sauvetage après la catastrophe ferroviaire la plus grave qu'ait connue l'Inde depuis plus de 20 ans, qui serait liée à un défaut de signalisation. Au moins 275 personnes ont péri vendredi après que le Coromandel Express est entré en collision avec un autre train passager, provoquant un enchevêtrement de wagons. Un bilan antérieur estimé à 288 morts a été revu à la baisse dimanche, car des corps auraient été comptés 2 fois, a déclaré le secrétaire en chef de l'État d'Odisha. Un demi-million de Polonais sont descendus dans la rue ce dimanche. Un demi-million de Polonais sont descendus dimanche dans les rues de Varsovie pour manifester contre le gouvernement nationaliste populiste au pouvoir à quelques mois des élections législatives d'automne, ont annoncé les organisateurs. La date de la manifestation, que l'opposition considère comme un moment décisif dans sa marche vers une éventuelle victoire électorale, est celle du 34e anniversaire des élections partiellement libres en Pologne qui ont précipité la chute du communisme en Europe.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Afrique.
traditions,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons du racisme dans le football à travers le prisme de la morale et de la religion. Le racisme dans le football est un sujet qui suscite de vives préoccupations à travers le monde car il remet en question les valeurs fondamentales de respect, d'égalité et de justice. Dans cette édition, nous examinons comment les principes moraux et religieux peuvent être des outils puissants pour aborder et résoudre ce problème persistant. Avec nos invités, nous allons comprendre comment les enseignements moraux et religieux peuvent aider à promouvoir l'inclusion, le respect mutuel et la diversité au sein du football et de la société dans son ensemble. Jean-Pierre Caléguéye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie, est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Eric.
Tarsis Haririmana, il est journaliste olympique indépendant et se trouve à Ottawa au Canada. Tarsis, bonsoir.
Oui, bonsoir Amy.
Jean-Pierre, je commence avec vous. En quoi le racisme dans le football va à l'encontre des principes moraux et religieux fondamentaux?
Disons d'abord que le racisme et dans le sport est d'abord le reflet de la société. Donc c'est le sport ne fait que refléter la réalité de nos sociétés. Et donc s'il y a du racisme au niveau du sport, ça signifie simplement que ce racisme existe dans la société et qu'on peut trouver et dans d'autres lieux. Et donc, évidemment, ça va à l'encontre, disons, contre les principes moraux, comme nous le savons, et quand on parlait de racisme, c'est vrai, donc c'est quelque chose à et qu'on n'approuve pas. Mais aussi, je crois qu'on ne pourrait pas dire nécessairement contre les religions, parce que religion aussi comme réalité sociale, à certains moments, et les religions ont aussi porté à ce péché, de, disons, ce mal de leur société. Donc c'est quelque chose qu'on peut trouver de part et d'autre. Cependant, évidemment, en réfléchissant sur les valeurs morales, réfléchissant aussi sur le rôle que la religion peut jouer, évidemment, les deux peuvent aider à faire face au racisme que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans le sport. En disant aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose qui a existé depuis des siècles. Donc, pendant des Jeux Olympiques déjà en 1904, il y a eu beaucoup de cas de racisme aux États-Unis et ailleurs.
Et le cas le plus récent, c'est celui de Vinicius Junior, le joueur de Real Madrid. Oui, justement, Tarsis, vous avez suivi le cas Vinicius. Quels sont les défis auxquels les joueurs, les entraîneurs et les supporters même sont confrontés lorsqu'ils essaient de combattre le racisme dans le football?
Non, c'est un phénomène de société, on le disait tout à l'heure. Donc le sport fait participer finalement à la promotion des valeurs, que ce soit des valeurs olympiques ou citoyennes dans la société. Mais le sport ne peut pas, changer tout. Philosophiquement, on peut dire, même au niveau de la religion, on peut dire qu'il y a la foi portée vers ce sport avec des valeurs qu'on nous enseigne, le respect, l'amitié et l'excellence. Mais au-delà de ça, on parle aussi du fair play. Pourquoi le dépassement de soi, sans oublier qu'il y a une alliance entre l'esprit et également le corps. Donc l'équilibre entre les deux porte quand même un bonheur et apporte de la joie. Et toutes les organisations du monde au niveau du sport ont des lois, leur Bible, les statuts, et pourquoi pas aussi la charte olympique, sans oublier qu'au niveau de la FIFA, on vient de publier, si vous voulez, un guide de la FIFA qui effectivement éclaire l'opinion, qui est un guide éducatif contre effectivement, le racisme dans le sport, contre la ségrégation dans le domaine du sport. Et le sport, par rapport à la religion, disons, à cette force de rassembler toutes les religions du monde et fait qu'un ballon qui est lancé, c'est tout le monde qui est derrière, les jeunes là, et le cadre donc vini, eh ben nous inquiète parce que bien sûr c'est son jeune enfant noir grandi au Brésil difficilement d'ailleurs parce qu'il a été aidé par sa grand-mère qui souvent rêvait de se retrouver dans une grande équipe l'Espagne de Madrid, mais évidemment trop jeune, il est brisé par ses insultes. Il n'est pas comme un Africain qui est éduqué à tout ça. Lorsqu'un Africain est débarqué en Europe, il est entouré par les siens des communautés qui lui disent, mais écoute, bon, ils n'ont qu'à vous insulter, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas aussi comme un natif noir qui est né en Europe. Ce sont des produits donc qui viennent au Flamengo, très jeunes, qui participent à toutes les équipes de jeunes du Brésil, moins 15 à 17 à 20 ans, et même à la sélection nationale, qui va débarquer en Espagne et qui a 6 à 8 fois été insulté. C'est quand même. Et c'est pour ça que ça devient trop populaire, parce que ça arrive dans un club qui est le club de Madrid contre Valence, une équipe côtière. Avec tout ce qu'on sait de Valence, Valence c'est quoi ? C'est quand même au niveau de la Méditerranée, c'est-à-dire que bon, il y a des groupes qui sont effectivement, c'est une ville ouverte au monde, mais il y a des groupes, et ces groupes qui sont des mauvais groupes à mon avis, qui sont hostiles à l'immigration. Et c'est ça en fait ce que on imagine. Le produit de la société, c'est ça en fait. Il faut comprendre aussi ces fanatiques qui veulent que la rivalité entre le Real et le Madrid se passe au niveau des tribunes. Mais malheureusement, ces insultes, c'est tous le joueur qui est en train de jouer.
Jean-Pierre, vous le disiez tout à l'heure, dans de nombreux pays, le racisme dans le football est lié à des problèmes sociaux plus larges. Est-ce qu'il y a moyen de remédier aux inégalités structurelles qui alimentent le racisme dans le sport à travers le prisme de la morale, bien sûr.
Oui. Et je crois que quand on parlait des reflets de la société, c'est pas nécessairement en termes des inégalités qui existent dans une société quelconque, mais c'est plutôt des sociétés qui portent les mots. Donc de leur vie, de leur réalité, et que à un certain moment ça s'exprime à travers le sport, comme autant que ça peut s'exprimer à travers la musique, ça peut s'exprimer à travers la profession, l'emploi ou autre chose. Mais là c'est parce que nous sommes dans un cas particulier, mais il faut aussi se dire que le sport a quelque chose de particulier parce que c'est aussi le lieu où s'exprime davantage nos émotions. Donc c'est le moment où on n'arrive pas à les censurer et ça sort. Donc ça expose, ça dénue de notre propre société. Et je pourrais dire et à ce niveau. Mais quelque chose quand même d'assez intéressant parce qu'on parle de la religion, la relation entre religion et sport et comment faire face au racisme, c'est que le sport en soi fait partie dans une certaine mesure dans des traditions religieuses. Le sport ou l'exercice physique faisait partie dans une certaine mesure était aussi une forme d'ascèse, une forme de prière. Donc, et qu'il n'y a pas de prière sans exercice. Et c'est même assez ironique, par exemple, que Saint Ignace de Loyola ait parlé des exercices spirituels. Et dans les exercices spirituels, par exemple, il fait une analogie au sport, ou bien aux exercices physiques, disons, quand il dit et de même en effet que se promener, marcher, courir sont des exercices corporels, de même on appelle exercice spirituel toute manière de préparer et de disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements, les ordonnées, etc. Donc il y a un lien qui est fait. Et donc dans une prière, par exemple, on contrôle on contrôle la parole, on contrôle tout le temps, etc. Et donc le lien est certain. Pensez par exemple aux moines qui parlaient de ora et labora, donc qui organisent leur vie en trois temps, hein, vie de prière évidemment, mais il y a aussi la vie active et vie de travail, vie de repos, et que les trois moments sont liés au corps. Donc c'est en fait, donc le sport aussi a c'est mais une activité dans une certaine mesure spirituelle. Et donc c'est là que je pense qu'il y a moyen d'essayer de trouver des solutions dans des questions de racisme qu'on trouve dans nos sociétés et qui s'expriment davantage évidemment à travers le sport, ou du moins qui est le sport qui permet de dénuder le côté macabre de notre société, de nos sociétés.
Talsis, vous venez de le dire, la FIFA qui a adopté un code de conduite, il y a aussi d'autres associations sportives, les clubs et les fédérations qui... Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent collaborer avec les organisations religieuses, par exemple, pour promouvoir la diversité et l'inclusion?
Oui, en fait, si on se réfère à l'histoire, effectivement, c'est au moment où, vers la fin du XVIIIe siècle, l'Église catholique était en difficulté en France. Il y a eu ce mouvement, et même en Angleterre avec les Églises, il y a eu ce mouvement de rassemblement. L'un des pères fondateurs qui a fait que le sport soit enseigné à l'école, c'était quand même un religieux. Et donc, pour vous dire que l'élément sport était utilisé non seulement dans la spiritualité, mais aussi dans l'enseignement des jeunes adultes. La différence maintenant, c'est que le phénomène de société fait que ce soit le Comité international olympique, la FIFA, ils ont élaboré maintenant des modules d'enseignement plus appropriés au contexte actuel dans des grandes villes, dans des quartiers, parce que on s'attaque à des phénomènes de société comme la drogue, comme l'antiracisme, bien sûr, comme le racisme. Alors, ce qu'il faut dire, que nous travaillons, et je fais partie d'ailleurs de celui qui a travaillé sur ce concept-là, je travaille dans des camps de réfugiés en élaborant des modules appropriés, donc l'animateur sportif doit être capable de travailler sur ce que nous appelons les antivaleurs qui sont acceptées, approuvées par la société, parce que ces antivaleurs parfois nous ont fait traverser le Jourdain par le mensonge, tu as échappé à quelque chose, par le mensonge où quelqu'un t'a caché parce qu'il a menti. Donc tu te retrouves dans un milieu difficile et l'activité physique, les fédérations internationales, le comité international olympique ont élaboré des modules adaptés où on a fait ces antivaleurs valorisées par la société, acceptées par la société. Et malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, c'est que ces antivaleurs prennent le dessus sur les valeurs, finalement. Il faut maîtriser ces antivaleurs. Les antivaleurs, c'est quoi? C'est les insultes que tu vois, que tu acceptes, ou alors, bien sûr, tout ce qui n'est pas valeur positive, mais qui est accepté, finalement, par la société. Et ces mouvements de masse, de foule, il faut les apprendre, les maîtriser, les enseigner, finalement, pour atteindre un objectif. Alors là, il faut la mobilisation des mairies, il faut la mobilisation des églises, il faut surtout que l'État s'engage. Parce que qu'est-ce qui se passe actuellement en Espagne? Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Il y a un phénomène nouveau qui est arrivé. Bon, quand j'ai couvert les Jeux Olympiques d'Atlanta pour la première fois, évidemment, l'ordinateur venait de naître. Mais pour le moment, tout le monde est devenu journaliste. Aujourd'hui, quand tu vas sur le compte YouTube de Vini Junior, tu constates qu'il a quand même plus d'un million d'abonnés. C'est impressionnant, ce jeune homme. Il est né, il a grandi, il vient de grandir dans un contexte de communication assez très facile pour lui. C'est pas la même chose que Djedjoya ou d'autres qui ont vécu les mêmes scènes, qui ont accumulé des frustrations. Aujourd'hui, c'est un autre produit de la société qui vient, qui arrive. C'est-à-dire, quand tu regardes ces espaces ou des commentaires qui se font, jusqu'à ce que quand même... La mairie, ou plutôt les responsables de Rio, sur le plan religieux, le Christ rédempteur, ce statut en monument le plus visité du monde, on était la lumière, que le Christ se plongeait dans la lumière au-dessus de Rio pour soutenir donc lui. C'est quand même impressionnant. Donc, faut-il que les réseaux sociaux maintenant, c'est un phénomène. On voit aussi que certaines églises commencent à utiliser ce réseau, commencent à distribuer des documents qui prêchent la Bible à travers les réseaux sociaux ou à travers d'autres moyens de communication. En fait, on est dans un autre monde qu'il faut maîtriser. Et malheureusement, ce produit, quand on parle du sport, c'est un produit qui se vend une facette, qui est passionnel, et on traite aussi une matière passionnelle. Voilà, c'est quoi le phénomène Vini.
Jean-Pierre, les valeurs morales et religieuses sont souvent associées à la compassion et à l'empathie envers les autres. Comment ces valeurs peuvent-elles être utilisées pour encourager la solidarité et la compréhension entre les supporters et les joueurs de différentes origines ethniques dans le football?
Oui, je pourrais peut-être partir d'un exemple que j'ai vécu quand j'enseignais au Nigeria. Et nous avions visité dans le nord un village où les musulmans et les chrétiens ne se parlaient presque pas. Et donc, il y avait, les plaies étaient encore ouvertes à cause de cas de Boko Haram, où les chrétiens accusaient les musulmans de les avoir livrés, etc. Et donc, et c'était sérieux, les gens ne se parlaient presque pas. Et donc, c'est le sport que, et parmi tant d'autres instruments, et c'est le sport qui avait été utilisé. Et donc, nous avions organisé des matchs de football où on avait dans les mêmes équipes chrétiens et musulmans. Je ne dis pas que le sport, disons dans ce cas-là, que le sport pouvait résoudre tous les problèmes, mais c'était quand même un pas très, très important. Et on voyait, donc on créait une dynamique, du moins ça devenait un lieu de dialogue, si vous voulez, et de réflexion en même temps. Donc à ce niveau, je pourrais dire que c'est quelque chose qui peut aider. Et puis, deuxièmement, une chose que j'ai vécue au Rwanda après 94, l'équipe nationale du Rwanda jouait à Mavubi. Et il y a un camion qui passait, et c'était fin 94, donc les gens souffraient encore, et donc c'est lui qui était considéré comme génocidaire, disons, et était pratiquement en dehors de la société. Il y avait comme une sanction morale contre lui, donc personne ne voulait l'approcher. Et dans ce camion qui passait, et tout le monde, donc ils étaient, ils chantaient, ils applaudissaient, parce que l'équipe nationale venait de gagner. Et donc là, je crois que l'équipe peut jouer un rôle de par la façon dont la réalité, donc c'est un microcosme, si vous voulez, tout ce qu'on peut trouver dans le sport, dans une équipe. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que ça peut nous apporter. Mais aussi, tout en considérant le cas, par exemple, tout en considérant, c'est-à-dire le cas de Vinicius, ou bien ce qu'on peut voir dans le sport, ce qui est bien quand même avec le sport, c'est qu'il nous permet à voir, donc, dans une sorte de microscope, les réalités de notre société. C'est-à-dire, on s'est attaqué à Vinicius, nous étions choqués, nous avons vu, et il en a parlé. Et c'est différent que ça se passe, par exemple, une personne importante soit-elle, ça se passe dans un lieu de travail ou ailleurs, d'ailleurs, qui voit ça, qui en parle. Mais le sport nous permet de voir ces cas. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et pour revenir, autant que le sport puisse nous aider, le sport aussi porte ses propres maladies. Mais c'est surtout les maladies de nos propres sociétés. Donc, juste pour information, pendant très longtemps, par exemple, les Juifs n'étaient pas autorisés à jouer dans certaines équipes. Et donc, et remarquez aussi, dans des congrégations religieuses, les Juifs n'étaient pas non plus acceptés. Donc, c'est pour montrer c'est qu'il y a donc une certaine interaction entre les éléments de la société et la société.
Tarsis, le football est un sport mondial qui rassemble des personnes de différentes cultures et religions. Comment pouvons-nous créer cet environnement inclusif dans lequel les joueurs peuvent jouir de leur diversité sans se soucier du racisme?
Bon, depuis les événements de 2020 aux États-Unis que vous connaissez très bien, je pense que ce soit le CIO, que ce soit la FIFA et tous les organisations mondiales font attention à ça, et ils ont inclus dans leur statut, dans leur texte, tout simplement, l'élément important qui est la diversité et l'inclusion. à côté évidemment de l'équilibre des sexes, du genre. Et ça, c'est important. Ils ont revu leur système de travail, de mobilisation, et ça devient un thème et un des défis de l'organisation du sport au niveau mondial. Alors évidemment, ce dont on peut parler, c'est que il y a moyen aussi à partir d'un club, ce qu'on n'a pas dit, soit en Angleterre, comment on peut arriver à éduquer la foule. Si on sanctionne une équipe donc que le match se joue à huis clos, c'est une sanction sévère pour Valence, par exemple. Et s'il y a certains éléments aussi qui sont sanctionnés, autorisés par la loi, et le message passe. Moi, ce qui est important dans tout ça, avec cette affaire, effectivement, ça nous révèle, c'est le volcan qui se réveille, mais qui est apaisé quand on voit que les Nations Unies aussi lancent des messages, que le président Lula écoute, s'insurge, que tout le Brésil se mobilise, que tous les meilleurs joueurs, grandes vedettes, même du cinéma, sont contre cette attitude. Évidemment, bien sûr, l'histoire de ce phénomène-là, ça date depuis des années, ça s'amplifie. Mais imaginons, qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, j'ai fait une petite étude. Et imaginons, Eric, un jeune, très jeune, noir, qui vient du Brésil et qui va débarquer dans une équipe espagnole et que 4 ans après, il a la nationalité espagnole. Ça, c'est un événement. C'est-à-dire que si les 200 joueurs du Real de Madrid, les meilleurs, les plus cotés, il n'y a pas un noir qui a été une grande vedette du Real de Madrid. Et ça, c'est vraiment un phénomène. J'essaie d'étudier parce que je fais un travail sur ce phénomène de société dans le domaine du sport. Et donc, c'est normal que à un moment donné, c'est pas tout le monde, je ne veux pas condamner tout le monde, qu'il y ait des mouvements de foule, des groupes de gens qui, en rapport aussi avec l'environnement politique du moment, puissent être hostiles à la présence d'un noir dans des grandes compétitions. C'est une étoile qui va se hisser au niveau mondial, qui va être parmi les meilleurs des joueurs de Real de Madrid et de l'Espagne. Et donc ça, c'est normal, mais il y a des outils juridique, le règlement d'abord, et qui fait que le sport est aimé, mais il faut respecter son règlement. Il y a moyen aussi de canaliser les foules, et de nombreuses foules, de faire respecter ces foules, parce que les sportifs maintenant sont identifiés et sont aussi à la responsabilité d'un club qui se déplace ou qui reçoit. Donc ça, c'est des outils qui ont été mis en place et renforcés depuis 2 ans, depuis 3 ans. Et ça devient un débat. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un travail en commun accord avec le gouvernement, avec les mairies, avec les églises, qui a un travail d'encadrement des jeunes surtout et de ces déplacements. On a vu avec l'Angleterre à l'époque où on a sanctionné Liverpool, à un moment donné il y a eu des violences au stade et ça s'est arrêté parce que le monde du football s'est élevé. Et ça peut se passer aussi pour le moment, je pense que c'est une bonne chose que ça soit trop médiatisé, que les Nations Unies s'en mêlent, que les États s'en mêlent. Et tout le monde reconnaît que la situation en Espagne est grave. Donc, et aussi en Italie et un peu partout en Europe, j'ai identifié plusieurs pays sur le phénomène, alors qu'en Amérique latine, c'est pas aussi évident que ça.
Oui.
C'est pas, oui. Mais l'Europe, l'Asie et même l'Afrique du Nord, il y a un problème.
Jean-Pierre, il nous reste moins d'une minute. Un mot pour terminer.
Oui, peut-être c'est qu'on pourrait toujours dans le même sens que Tarsis. Je crois qu'il faut qu'il y ait d'une part des sanctions et contre ceux qui proposent des idées racistes sur les terrains, des sanctions contre les équipes, des sanctions contre les individus, mais et pas seulement des sanctions, mais aussi l'éducation. Je crois que Tarsis l'a bien dit aussi, l'éducation. Ça pourrait mais aussi dans des écoles et ailleurs, et donc pour pouvoir rendre les gens beaucoup plus sensibles aux questions de racisme dans leur société.
Merci Jean-Pierre. Malheureusement, le temps passe. Il nous reste quelques secondes pour clôturer cette édition de ce dialogue des religions consacré au racisme dans le football à travers le prisme de la morale et de la religion. Merci Jean-Pierre Karegeye pour votre contribution. Merci à Tarsis et Harelimana pour également votre contribution. Georges et Léonard Sagnot a assuré la mise en onde. Eric Manirakiza était à la présentation. Dans quelques secondes, la